L'accent des autres, avec les médias francophones publics.
Merci d'être avec nous. Voici l'actualité de la semaine vue par les partenaires des médias francophones publics. Et on revient d'abord sur ce récent sommet en Suisse, Pierre Anchoffat. La Suisse qui était au cœur de la diplomatie mondiale le week-end dernier pour évoquer la paix en Ukraine.
Plus de 80 pays sont venus en Suisse centrale en absence de la Russie. Ils ont défendu l'intégrité territoriale de l'Ukraine et la Suisse entend poursuivre ses efforts.
Nous parlerons ensuite d'un autre sommet. Il s'est tenu ce jeudi à Paris, un forum international sur les vaccinations, avec un engagement en particulier, Nicolas Sûr, 1 milliard 200 millions de dollars pour développer la production de vaccins en Afrique.
Oui, car à l'heure actuelle, l'Afrique importe 99% des vaccins dont elle a besoin.
Au Canada, les autorités ont décidé d'inscrire le corps des gardiens de la révolution islamique comme groupe terroriste, Karine Matheux.
Oui, après des années de pression, le gouvernement canadien inscrit l'armée idéologique d'Iran sur sa liste noire.
Le premier tour des législatives anticipées en France, c'est dans une semaine. Nous verrons dans quelques instants avec France Bleu que les imprimeries tournent à plein régime. Il faut imprimer les bulletins de vote, mais aussi les affiches électorales. Enfin, en Belgique, le printemps 2024 aura été le deuxième le plus pluvieux depuis 1833. Le retour du beau temps est annoncé pour la semaine qui vient, mais pour pas mal d'organisateurs d'événements, eh bien, c'est trop tard, Jacques Crémers.
Oui, et notamment pour les organisateurs des premiers festivals qui ont lieu en juin. Ainsi, le Feel Good a été annulé, le terrain gorgé d'eau était impraticable.
Et voilà pour le sommaire de cette semaine. Les avis étaient très partagés et relativement mitigés au lendemain du sommet du Burgenstock sur l'Ukraine. Pierre-En, ce sommet pour la paix s'est achevé dimanche dernier en Suisse centrale.
Oui, si tout s'est bien déroulé, si la Suisse a pu démontrer sa capacité à réunir en toute sécurité 92 pays pour discuter des perspectives de paix en Ukraine, il est difficile de parler de résultats concrets. Il s'agit clairement d'un succès pour le président Zelensky. Placé au centre de la photo officielle, le président ukrainien qui a obtenu l'inscription dans la déclaration finale de l'intégrité territoriale de son pays, un texte que le Brésil, l'Inde et l'Afrique du Sud ont refusé de signer. C'est donc plutôt la déclaration des amis de l'Ukraine, à l'instar du Premier ministre canadien Justin Trudeau.
C'est pas à la communauté internationale de décider qu'est-ce qui serait une paix juste, c'est à l'Ukraine. Et nous sommes là pour appuyer l'Ukraine dans leurs décisions, parce que c'est eux qui sont les victimes de l'agression russe.
Conscient que ce sommet n'était qu'une première étape sur un long chemin, le ministre suisse des Affaires étrangères, Ignacio Cassis, a souligné devant les médias sa volonté de s'engager pour ce processus.
Il faut de la volonté d'un côté de l'Ukraine, de l'autre côté une certaine volonté aussi de la Russie et puis des big players. Nous pouvons être à disposition, nous pouvons faire beaucoup de travail de médiation, des bons offices, mais les décisions géopolitiques, on ne peut pas les prendre tout seul.
Un rôle de médiation dont certains doutent qu'il soit encore possible, la Russie considérant désormais la Suisse comme partie prenante.
Alors concrètement, que peut faire la Suisse pour que les efforts accomplis ne restent pas lettre morte?
Spécialiste de la Russie et chercheur à l'Institut Jacques Delors, Cyril Brett est lui convaincu que grâce au sommet du Burgenstock, on dispose désormais d'un kit de paix prêt à l'emploi.
À la Suisse de démontrer maintenant que sa diplomatie est capable en toute discrétion d'aller porter les conclusions, la méthode à Moscou pour démontrer encore une fois que le kit de discussion pour un cessez-le-feu, une armistice et une négociation à terme sont prêts et que c'est la Suisse qui tiendra, non pas évidemment la substance de la solution, mais qui tiendra la méthode et qui tiendra l'horloge.
Des attentes fortes donc, mais pour l'heure, la situation militaire sur le terrain n'ouvre pas d'opportunité pour amorcer un début de négociation.
On va parler d'une autre réunion internationale avec RFI. Cette fois, il s'agit du Forum pour la souveraineté et l'innovation vaccinale. Il s'est achevé jeudi à Paris. Le but était de renouveler l'offre de vaccins que Gavi, l'Alliance mondiale du vaccin, fournit à des prix abordables pour les pays pauvres et en particulier africains. Et puis, il s'agit aussi, Nicolas, de permettre à l'Afrique de fabriquer plus de vaccins sur son sol parce qu'elle doit encore importer 99% de ses doses de l'étranger.
Oui, cette dépendance a éclaté au grand jour pendant la crise du Covid, mais elle concerne aussi, et c'est plus grave, tous les vaccins prioritaires, en particulier pour les enfants. La rougeole, la poliomyélite, la tuberculose. Le forum avait donc pour objectif de financer un nouvel instrument pour encourager la création d'usines de vaccins sur le sol africain. L'accélération accélérateur africain de fabrication des vaccins qui a reçu une promesse de financement d'$1,2 milliard des donateurs. Les projets se multiplient, du Sénégal au Rwanda en passant par l'Afrique du Sud, mais il faut à présent qu'ils se concrétisent.
Et en attendant de produire, il faut aussi continuer les campagnes de vaccination en Afrique avec des doses achetées à l'étranger.
Oui, et c'est là que l'Alliance du vaccin Gavi avait besoin de se refinancer pour les 5 prochaines années pour que les États africains puissent vacciner à moindre coût 2 fois plus d'enfants contre un nombre plus important de maladies, puisqu'on a désormais 2 nouveaux vaccins contre le paludisme qui réduisent la mortalité infantile et 1 contre le cancer du col de l'utérus, première cause de mortalité des femmes africaines, mais aussi pour reconstituer les stocks de vaccins contre le choléra ou la fièvre jaune. L'Alliance du vaccin a besoin de 9 milliards de dollars pour la période 2026-2030. Elle a reçu 2,4 milliards de promesses des donateurs, ce qu'elle estime être un très bon départ.
Nicolas Sûr pour RFI.
L'accent des autres.
Cette décision, à présent au Canada, décision prise par les autorités, le corps des gardiens de la révolution islamique figure désormais sur la liste des organisations terroristes pour le Canada. Il s'agit, Karine, d'une branche des forces armées iraniennes et elle relève directement du guide suprême de l'Iran.
Oui, et ce groupe rejoint sur la liste le mouvement palestinien Hamas, le Hezbollah, Al-Qaïda, les talibans ou le groupe d'extrême droite Proud Boys. Le corps des gardiens de la révolution islamique est d'ailleurs accusé de fournir une assistance militaire et financière au Hamas, responsable de l'attaque du 7 octobre dernier en Israël. Cela signifie donc que la police peut désormais inculper toute personne qui soutient financièrement ou matériellement cette entité.
Alors, plusieurs voix s'étaient élevées depuis des années, Karine, pour placer l'armée idéologique d'Iran sur la liste des organisations terroristes.
Le gouvernement affirmait que sa désignation en tant qu'entité terroriste n'était pas nécessairement le bon outil de sanction, mais les partis d'opposition insistaient, de même que des membres de la communauté irano-canadienne, ainsi que l'Association des victimes du vol PS-752. Ce vol abattu en 2020 par le corps des gardiens de la révolution islamique, après le décollage de l'appareil depuis Téhéran, avait fait 176 morts, dont 55 citoyens canadiens et 30 résidents permanents. Voici le ministre canadien de la Sécurité publique, Dominique Leblanc.
Le régime iranien a toujours affiché un mépris total pour les droits de la personne, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Iran, ainsi qu'une volonté de déstabiliser l'ordre international fondé sur des règles.
Le ministre canadien de la Sécurité publique, donc. Karine, le gouvernement appelle les membres de la diaspora iranienne au Canada à la prudence.
Oui, de peur de représailles ou d'arrestation, écoutons la ministre des Affaires étrangères du Canada, Mélanie Joly.
Nous avons dit depuis des années de ne pas aller en Iran. Avec la décision d'aujourd'hui, il y a un risque beaucoup plus élevé de détention arbitraire pour les Canadiens qui iraient en Iran. Alors, pour tous ceux et celles qui sont en Iran au moment où on se parle, c'est le temps de retourner à la maison. Et pour ceux et celles qui pensent aller en Iran, n'y allez pas.
Le Canada n'a pas de présence diplomatique en Iran.
En France, on se prépare activement aux élections législatives, élections anticipées. C'est le week-end prochain, le premier tour en tout cas. Et dans les imprimeries, c'est le branle-bas de combat. Les professionnels du secteur ont été sollicités par les différents candidats. Il faut imprimer les bulletins de vote, mais aussi les affiches électorales. Les imprimeurs sont littéralement débordés. Illustration à l'atelier du Grésivaudan. C'est une imprimerie basée à Cessin, dans la métropole grenobloise. Tout le monde met les bouchées doubles pour être dans les temps. C'est ce qu'a pu constater Julien Balidas pour France Bleu Isère.
Les machines tournent à plein régime, jour et nuit.
Marie-Noël Baptiste, elle derrière. Dominique Escaron, on est un peu dans la course.
Olivier Salvetti est le responsable de production à l'atelier du Grésivaudan.
On est 7 et là aujourd'hui les 7 sont focalisés sur les élections depuis vendredi. Quoi. Ils font entre 12 et 13 heures pour assurer justement le délai. Quoi.
Tout le monde a sacrifié son week-end comme Mickaël, un des salariés.
C'est depuis qu'ils ont commencé à nous envoyer les fichiers, il faut imprimer tout en urgence. Ça a commencé vendredi après-midi et samedi, dimanche, jusqu'à maintenant. Bah, ça fait des grosses journées aussi.
Ouais. Ici, On imprime des bulletins pour une quinzaine de candidats, mais Olivier Salvetti a dû dire non à certains.
On en a refusé à peu près 8 candidats encore, donc les candidats qui sont là ont confiance en nous, donc ils savent que normalement on tiendra les délais si on s'engage avec eux. C'est pour ça qu'on n'en a pas pris d'autres, parce que on avait un peu le doute de pouvoir assumer.
Pour ces élections, il a anticipé pour ne pas être à court de papier.
On a pris 12 palettes de papier. Quand ça arrive ici, c'est sympathique.
Les bulletins de vote et profession de foi doivent être déposés au centre des expos à Grenoble. Le boulot ne sera pas terminé pour autant, puisqu'il faudra ensuite imprimer les affiches électorales et anticiper le second tour.
Reportage Julien Balidas pour France Bleu Isère. Au total, 4 millions de bulletins de vote auront été imprimés dans cette imprimerie pour le premier tour des législatives, donc en France. On va se quitter en Belgique cette semaine avec un printemps qui s'achève et qui aura été véritablement pourri. Les jours qui viennent s'annoncent ensoleillés, mais trop tard pour de nombreux organisateurs d'événements en plein air, Jacques.
C'est notamment le cas pour les festivals de musique comme le Feel Good, où devait se produire à EY Loïc Noté, Patrick Fiori ou encore Christophe Willem. La 9e édition n'a pas pu avoir lieu. Il faut dire que ce printemps est le deuxième le plus humide depuis 1833. Alors dans cette commune située en province de Liège, le terrain qui devait accueillir la scène et les festivaliers était tout simplement impraticable, comme l'explique son co-directeur Damien Corbezier.
Imaginez qu'il y a ici une sorte de, je veux dire, de croûte de dur, et au-dessous c'est complètement imprégné d'eau, donc on va la tasser et l'eau va remonter. Et c'est ça le problème. Donc dès qu'il pleut, ou bien si jamais l'eau remonte, toutes les infrastructures risquent de se laisser aller. On n'annule pas. Donc ça veut dire qu'on sera là l'année prochaine, et tout ce qui est fait cette année est reporté à l'année prochaine, ce compris bien entendu les tickets que les festivaliers ont achetés sont bons pour l'année prochaine.
Dans une autre région, c'est un plan d'urgence qui a été déployé pour garantir le maintien du Graspop Metal Meeting. Plancher en plastique, écorce de bois au sol, mais aussi fermeture des parkings pour éviter l'embourbement des voitures. Ici à Dessel, près d'Anvers, on a dû mettre en place un plan de mobilité avec des navettes de bus, du covoiturage, des parkings à vélo gratuits. Mais une partie du festival a tout de même été annulée. Un printemps pourri, en attendant de meilleures conditions météorologiques.
Et les jours qui viennent s'annoncent meilleurs, enfin, en Belgique. Voilà pour les conséquences donc de cette météo bien maussade. Merci à vous d'avoir été là. L'accent des autres revient la semaine prochaine, et ce sera le dernier numéro de la saison. À la semaine prochaine, donc.